Bonsoir à tous, je me présente en quelques secondes. Je suis donc le père Pierre Desrogeant. J'ai 34 ans. Je suis prêtre depuis 8 ans du diocèse de Versailles. Je suis vicaire dans une paroisse, je suis aumônier d'un collège et je m'occupe par ailleurs des questions politiques pour l'évêque de Versailles. Alors je vais vous parler d'un sujet un peu différent, quoique parfois des connexions, mais ce n'est pas toujours bon signe. La politique et la sexualité, je vais vous parler, moi, de l'amour vrai. De l'amour vrai, de la sexualité, de cette vie affective, de la construction de l'amour vrai. Avant de commencer, je vous demande toujours deux permissions. La première, c'est de vous parler avec franchise. Pourquoi ? Parce que je pense que le sujet de la vie affective, de l'amour, de la sexualité, est le sujet par excellence sur lequel la langue de bois fait des ravages. C'est le sujet par excellence sur lequel il faut pouvoir être franc et direct. Parce que je garde en souvenir toujours cet étudiant qui a 21 ans, qui est en école de commerce à Paris, et qui, à la fin d'une conférence comme celle-ci, est venu me voir et m'a dit « Mon père, pendant 6 ans, j'étais dans un lycée catholique. Comment ça se fait qu'on m'a jamais dit ça avant ?» Ça m'aurait tellement évité de m'abîmer et d'en abîmer un certain nombre. Et en fait, vous voyez, le cœur d'un prêtre, son angoisse, c'est ça. C'est un jour de croiser un jeune qui lui dise « Mon père, je me suis abîmé, je me suis planté parce que vous n'avez pas osé être vrai avec moi quand vous m'avez croisé. Alors je vais être vrai avec vous. Je vais vous parler avec franchise. Surtout que... On va éviter d'un portable. Je vais vous parler avec franchise, surtout que, en même temps, je vous laisse vraiment libre. Vous êtes étudiant, vous avez la maturité pour ça, d'être capable d'entendre un discours, et puis de décider ensuite ce que vous en garderez. En aucun cas, je vous demande d'être d'accord avec moi sur tout ce que je vais dire. Peut-être que certains ne sont pas du tout chrétiens parmi vous, et viennent juste découvrir ce que peut dire l'Église sur le sujet. Mais comprenez bien une chose, je vais vous parler librement parce qu'en même temps, je vous laisse libre d'en garder ce que vous voudrez. Et je crois que c'est ça le plus important. Après une telle conférence, c'est de prendre le temps, seul, loin du regard des autres, ou alors entre amis, et bien de se dire, de reprendre les choses et de dire, tiens, de tout ça, de tout ce que j'ai entendu, avec quoi j'adhère? Qu'est-ce que je garde pour moi? Qu'est-ce que je fais bien? Et puis peut-être, qu'est-ce que je laisse de côté? La deuxième chose que je vous demande éventuellement, c'est pardon. Pourquoi? Parce que je ne vous connais pas du tout, presque pas, et que du coup, je ne connais pas vos histoires, et forcément, quand on parle à un nombre important de jeunes en même temps, on ne peut pas avoir les mêmes nuances que si je parlais seul à seul avec chacun. Et du coup, forcément, vous pourriez peut-être avoir l'impression parfois que je suis trop tranché, ou trop rapide, ou que je généralise. Peut-être même que certains pourraient avoir l'impression d'être jugés. Alors comprenez bien que en aucun cas, je cherche à vous juger. Personne n'a le droit de vous juger. Dieu seul connaît vos cœurs. Moi, je cherche avec l'Église à discerner les comportements. Qu'est-ce qui me fait grandir? Qu'est-ce qui peut blesser? Et vous voyez, en aucun cas, on ne réduit quelqu'un à ses comportements. Ça, jamais. Et donc, pardon si par avance, si vous aviez l'impression que peut-être j'étais un peu dur, comprenez que c'est pas vous que je vise. Voilà, une fois que ça est dit, on va pouvoir commencer. Et forcément, quand on s'adresse à un auditoire comme le vôtre, même s'il y a sans doute une majorité de chrétiens, je m'aperçois qu'il faut toujours commencer, quand on est prêtre, et quand on aborde le sujet de la sexualité ou de l'amour, il faut toujours commencer par exploser les idées reçues. Parce qu'il y a une idée reçue qui trotte dans la tête de 99% des gens, y compris les cathos. C'est de croire que, dans ce domaine-là, sur ce sujet-là, l'Église n'aurait qu'une longue liste d'interdits à poser. Que le seul rôle de l'Église, ce serait de me mettre des lignes rouges à ne pas dépasser. Un jour, à la fin d'une conférence comme celle-ci, il y a un qui se lève et qui me dit « Mon père, mais jusqu'où je peux aller avec ma copine sans que ce soit un péché grave ?» Je lui dis « Ta question est un peu con, mon beau vieux. » Parce que si tu n'attends de l'Église qu'une limite, qu'une ligne rouge à ne pas dépasser, sans comprendre positivement d'abord le bonheur qu'il y a derrière. Si tu ne comprends pas le bien qu'il y a d'abord, que l'Église te propose d'abord, alors cette exigence, ces lignes rouges, elles ne vont pas tenir. Parce qu'elles sont tristes et ennuyeuses, s'il n'y a que ça. Vous savez, ça c'est ma petite expérience de confesseur qui parle. Vous avez beau savoir, en tout cas, c'est ce que j'entends à Paris, vous savez, les jeunes parisiens ont beau savoir ce qui est bien ou pas bien, le jour où ils sont avec une jeune fille magnifique dans le même lit, le catéchisme est vite oublié quand même. Ça ne suffit pas, la ligne rouge. Ça ne suffit pas de savoir qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché. Et l'Église, elle n'est pas d'abord ça. Et c'est important parce que, vous voyez, même quand des jeunes cathos qui font confiance, qui viennent voir un prêtre pour discuter de ça avec moi, quand je les vois entrer dans mon bureau, ça se voit à leur tête qu'ils s'attendent à se faire engueuler. Ils viennent me parler d'amour et inconsciemment, ils se disent que le prêtre va d'abord leur dire que attention, c'est péché. Attention, ça fait gaffe. Comme si l'Église, sur ce sujet-là, était gênée. Pourquoi la plupart d'entre vous n'en parlent qu'en confession? Moi, les premières fois où j'ai parlé de tout ça, c'est en confession. Et du coup, forcément, on assimile ça au péché. On finit par... Il y a comme un truc, vous voyez, qui, en arrière-fond, c'est pas génial. On est presque gêné. En fait, il n'y a rien de plus faux. La première réaction que j'ai comme prêtre, comme quelqu'un, quand un jeune vient me dire qu'il est amoureux, qu'il est amoureuse, qu'il sort avec tel ou tel, c'est d'abord de dire c'est génial. C'est génial parce que tu es fait pour ça. Cette capacité d'aimer que tu as en toi, c'est ce qu'il y a de plus beau en toi. C'est ce que Dieu t'a donné de plus beau. Tu es fait pour aimer et être aimé. Dieu t'a donné ça. C'est le trésor que Dieu t'a donné. Ce désir, cette capacité d'aimer et de te donner. Donc c'est d'abord un regard émerveillé que l'Église pose là-dessus. D'ailleurs, pour ceux qui ouvrent la Bible de temps en temps, ouvrez-la aux trois premières pages. Dieu fit l'homme pour la femme pour l'homme. Ensemble, ils ne feront plus qu'un. Je vous fais pas un schéma. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Il n'y a pas marqué Dieu a rougi, Dieu est gêné. Dieu vit que cela était bon. C'est d'abord un regard émerveillé qu'on pose dessus. Et en même temps, parce que l'Église vous aime trop pour vous mentir, elle vous dit, à la fois c'est ce qu'il y a de plus beau, cette capacité d'aimer, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus fragile en toi. La preuve, c'est là-dessus que tu pourras le plus être heureux, le plus être heureuse du monde, le plus rendre quelqu'un heureux, heureuse du monde, mais c'est aussi, vous le savez, là-dessus que tu pourrais le plus te blesser, ou le plus blesser quelqu'un d'autre. Et donc tout ce que va te dire l'Église, et toute l'exigence de l'Église, n'est pas là pour t'empêcher d'aimer. Mais c'est pas là pour te mettre un écran entre toi et l'amour. C'est pas là pour te dire que c'est interdit d'aimer. Au contraire, c'est pour préserver cette capacité d'aimer. J'aime bien prendre cette image de, non pas de l'écran entre vous et l'amour, mais de l'écrin. Mademoiselle, quand votre fiancé vous offrira votre bague de fiançailles, parce que c'est une pierre précieuse qui est belle mais fragile, il offre dans cette boîte avec du velours à l'intérieur qui a comme fonction de mettre en valeur la pierre précieuse et en même temps de la protéger. Le discours de l'Église, quand on le comprend bien, quand on ne le réduit pas à des caricatures, c'est un discours qui est là pour, comme un écrin pour mettre en valeur cette beauté, cette capacité d'aimer que vous avez, et en même temps la protéger, pour que ça reste un lieu de joie vraie et pas de blessure. L'Église, elle est d'abord pour. Il m'arrive dans mes fonctions de voir plusieurs journalistes. Et à chaque fois qu'un journaliste interviewe un prêtre, les questions sont toujours les mêmes. Pourquoi l'Église est contre? Contre le palliatif, contre l'amour homosexuel, contre le cible, contre l'amour abominable, contre. Je dis, mais arrêtez! L'Église, elle est pour! Et si parfois elle est contre, c'est pour mieux être pour! Vous voyez? Parce qu'elle est pour l'amour. Et c'est ça qu'elle cherche à protéger. Alors je ne vais pas vous faire un cours, même si on est un peu dans le... Dieu pour ça. Je vais vous faire juste de vous partager quelques intuitions que je tiens de ma petite expérience de prêtre. Je vois qu'il y a d'autres prêtres dans la salle, ils ont sûrement encore plus d'expérience que moi, mais je vous partage juste ce que je retire de ces accompagnements, puisque j'ai la joie de voir pas mal d'étudiants en lycéen. Et puis le but, c'est que vous-même ensuite, vous prolongez ces intuitions avec vos convictions. Si on veut apprendre à aimer en vérité, il va falloir vite faire la distinction entre sincérité et vérité. Le drame de notre génération, c'est qu'on est la génération du règne de la sincérité. Ça veut dire que pour la plupart d'entre nous, le seul critère qui suffit pour dire que c'est bien, c'est de dire qu'on est sincère. Toutes les semaines, j'ai des jeunes qui viennent me voir en disant « Mon père, pourquoi on ne pourrait pas sortir ensemble? Pourquoi on ne pourrait pas coucher ensemble ?» Puisqu'on est sincère. C'est-à-dire qu'on met de côté, ok, on ne fait pas de truc crade, c'est pas le plan d'un soir, c'est pas... J'ai vu qu'il y a des affiches à côté des miennes pour annoncer une soirée assez étonnante. Voilà, ok, c'est pas ça, très bien. Mais, puisqu'on est sincère, si on est sincère, pourquoi on ne pourrait pas? Le problème, c'est que toutes les semaines, j'ai des garçons et des filles qui viennent me voir cette fois les larmes aux yeux, en disant, mon père, pourquoi c'est si douloureux, pourquoi c'est si difficile, alors que j'étais sincère. On peut sincèrement se planter, en fait. Le thème de la sincérité, c'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, ça va être souvent le seul critère de discernement, de choix, y compris chez les cathos, et parfois surtout chez les cathos. Je vous donne un exemple. Les fameuses journées mondiales de la jeunesse. C'est un peu le drame au niveau affectif, quand même. Heureusement que c'est tous les 3 ans. Sans doute que certains d'entre vous y étaient, à Madrid. La chance de Madrid, c'est qu'il y a eu un énorme orage pendant la veillée avec le pape. Ça a calmé tout le monde. Et moi, je me souviens de Cologne. Cologne, c'est certains y étaient, 2005. 1 500 000 jeunes, 35 degrés à l'ombre. Voilà. Et un mois après, en fait, nous les prêtres, quand on accompagne les groupes, on est tellement pris par le groupe qu'on se rend compte de rien. En fait, c'est grave pour nous, c'est un mois après les GUJ, où on découvre en fait tout ce qui s'est passé pendant les GUJ. Mais un garçon vient me voir et me dit, très sympa, un garçon bien, un garçon droit, il dit, mon père, j'ai rencontré la femme de ma vie. Il dit, raconte-moi, génial, première réaction, c'est génial. Raconte-moi. Tu la connais depuis combien de temps? Ben, on s'est rencontrés au GMJ. Puis tu sors avec elle depuis combien de temps? Ben, je vous l'ai dit, depuis les GMJ.